voix nue. Cette semaine, Aurélie Luneau rencontre Jean-Claude Amezen. Ce soir, une enfance entre émerveillement et poids de l'absence. Bonsoir Jean-Claude Amezen.
Bonsoir.
Vous nous recevez chez vous, au cœur du 5e arrondissement de Paris, alors avec une petite vue sur une cour intérieure calme et verdoyante. La nature et la ville, une symbiose nécessaire à l'homme que vous êtes. Médecin, immunologiste, chercheur en biologie, directeur du Centre d'études du vivant de l'Institut des humanités de Paris à l'Université Paris Diderot, et également président d'honneur du Comité consultatif national d'éthique. Alors vous êtes aussi auteur de nombreux livres. L'écriture est un besoin, on va le comprendre, dans cette à voix nue qui vous est dédiée. Et vous êtes un passeur de savoir aussi ces dernières années par la voix sur les antennes de Radio France, avec votre rendez-vous hebdomadaire sur France Inter chaque samedi sur les épaules de Darwin. Avec vous toute cette semaine, nous allons nous poser sur vos épaules, Jean-Claude Amezen, pour une plongée dans votre parcours, vos racines, vos origines, en quête de ce qui vous a construit et ce qui vous a guidé et ce qui vous nourrit aujourd'hui pour mieux comprendre celui que vous êtes. Et tout naturellement, bien sûr, l'enfance et la famille occupent dans ce parcours une place essentielle. Alors dites-nous, quelle est la part d'enfance qui demeure en vous et qui continue à vous construire et à vous guider?
Alors c'est toujours très, très difficile de savoir à rebours, rétrospectivement, ce qui demeure en soi, mais je pense que mon émerveillement, mes recherches, mes interrogations, mes questionnements sont une poursuite de l'enfance. Si j'essaye de remonter à mon enfance, ce que je découvre, c'est la nature que vous évoquiez, un émerveillement devant la nature. Et puis, les livres, à la fois un émerveillement et un questionnement. Ma femme, qui est sinologue, me disait que les sages, les maîtres en Chine, sont dénommés Tzu, Lao Tzu, Mengzi, Confucius, qui est Confucius. Et le terme Tzu est considéré comme voulant dire maître. Lao Tzu, le fondateur du taoïsme, c'est le vieux maître. Et l'idéogramme qui dessine le maître, le Tzu, est un idéogramme d'une silhouette avec une grosse tête, avec des jambes dont les pieds tiennent mal sur le sol, et avec des grands bras levés vers le ciel. Et en fait, la signification de cet idéogramme, ça n'est pas maître, c'est enfant. Et donc Lao Tzu, c'est le vieil enfant. Et tous ces maîtres en Chine sont dénommés enfants parce que l'enfant, le maître, le sage, c'est celui qui reste enfant devant la connaissance pendant toute sa vie et qui ne cesse d'apprendre.
Vous êtes né aux États-Unis en 1951. Est-ce que justement ces racines familiales et ces terres différentes, la France, les États-Unis, expliquent aussi beaucoup de choses de vous?
Sans doute, et d'autant plus quand vous parlez de racines, que c'est à la fois un témoignage de racines et un témoignage de déracinement. Ma mère voulait que nous nous installions aux États-Unis après la guerre. Mon père était très attaché à la France et donc voulait rester en France. Ma mère, après la guerre, et mon père, avant la guerre, venaient de Pologne. Et donc c'est une de mes racines qui est due à une histoire tumultueuse.
Alors cette histoire tumultueuse, on va la découvrir dans un instant. Je voudrais juste qu'on s'intéresse aussi à cette fratrie, puisqu'il y a vos parents et il y a votre frère et votre sœur, votre frère Olivier, devenu médecin cardiologue par la suite, et votre sœur Eva, stomatologue et auteur-compositeur. Des caractères propres à chacun et en même temps cette complicité et toujours ces souvenirs d'enfance entre vous, certainement, qui vous ont construit aussi.
Oui, alors des souvenirs, on était très proches, mon frère et moi, on était séparés par un an et demi. Et donc, toute notre enfance et notre adolescence s'est passée dans une espèce de complicité permanente. Ma sœur était plus jeune, et donc c'était une complicité, mais d'une autre nature. Et puis, il y a toute l'enfance qu'on a vécue ensemble, mais il y a aussi un souvenir, je vous parlais de livres tout à l'heure, mais il y a aussi le conte. Il y a ce qui est originaire avant l'écriture, avant le livre, et qui est la voix, qui sont les chants des Aèdes. Et très tôt, et je crois que ça nous a marqué, mon frère, ma sœur et moi, mon père, chaque nuit, nous racontait des histoires. Et ces histoires, il les tissait, mais je les suis rétrospectivement, il les tissait par un mélange de récits historiques, de mythologie, de romans policiers, de grandes fictions. Et donc j'ai retrouvé, au fur et à mesure de mes lectures, des bribes de ce que j'avais entendu tisser dans une histoire extraordinaire qui terminait chaque nuit par un suspense dont on attendait la suite. Et donc j'ai été bercé, je crois que nous avons été tous les trois bercés de manière un peu différente, mais marqué par ce récit oral.
Qui était le narrateur, votre père ou votre mère ?
Mon père. Alors, c'est intéressant quand vous dites qui était le narrateur. Ma mère racontait. Et donc, tout ce que j'ai appris petit de la Shoah, de la Seconde Guerre mondiale, de ce que ma mère avait vécu, c'était ma mère qui me le racontait. En faisant la cuisine, en préparant le repas. Ma mère disait et mon père comptait.
Parlez-nous de vos parents, justement, parce qu'on sent qu'il y a, dans leur profession et dans leurs activités, un double profil aussi, à la fois les sciences et puis l'art et la culture.
Mon père était un ingénieur. Il était parti de Pologne, de Cracovie, au début des années 30, et avait fait ses études en France, d'ingénieur à Grenoble. Et donc, c'était quelqu'un d'extrêmement précis, d'extrêmement sérieux, une espèce de calme, de noblesse, de caractère un peu secret. Et à côté de ça, quand l'occasion s'y prêtait, c'était le cas le soir, mais c'était dans d'autres cas aussi, il devenait un conteur. Et donc là, c'était le latin, le grec qu'il avait étudié, ce qu'il avait lu, qui ressortait. Ma mère était une grande lectrice, et elle était une scientifique d'une autre nature que mon père, pour qui, je pense, les mathématiques étaient l'architecture de la physique, c'est-à-dire de ce qui permettait de comprendre et de manipuler le monde réel, concret. Ma mère adorait les mathématiques. Elle avait un plaisir dans les constructions abstraites.
Et elle était artiste peintre.
Mon père était violoniste. Mon père avait voulu devenir violoniste avant de devenir ingénieur, donc il y avait ces deux dimensions. Ma mère peignait, mon père jouait de tous les instruments, en fait, de l'accordéon, du piano, et ne jouait pas de violon depuis la guerre. Il avait été engagé volontaire, il n'était pas encore français, il s'était engagé comme volontaire dans l'armée pendant la Seconde Guerre mondiale. Il avait été fait prisonnier, et quand il est revenu...
Des stalags ?
Oui, il n'y avait plus rien, et il nous racontait qu'en particulier son violon avait été volé, qu'il ne voulait pas rejouer du violon. On lui a offert beaucoup plus tard un violon, il s'est remis à jouer, mais il voulait pas. Et moi, j'étais étonné que mon père ne rejoue pas du violon, tout simplement parce que son violon avait disparu, avait été volé. Je trouvais ça étrange. Je veux dire, pourquoi pas en prendre un autre et recommencer. Et vers l'âge de 18 ans, 20 ans, j'ai appris ce que je ne savais pas, que mon père avait été marié avant la guerre, qu'il a connu ma mère après la guerre, et que sa première femme avait été déportée pendant la guerre, était morte à Auschwitz, et que donc, je pense, cette absence du violon, c'était cette absence de sa femme, c'était ce désastre auquel il ne voulait plus retoucher. Et il portait une bague, une chevalière qui nous avait toujours intrigués, sur lequel il nous racontait des histoires, qui était aux initiales de sa femme. Et lorsqu'il est mort, dans son portefeuille, on a trouvé une photo de sa femme qui portait en permanence.
Mais Jean-Claude Amezen, votre mère aussi a été déportée.
Ma mère de Pologne, donc, a été déportée, a été à Auschwitz pendant quelques mois. Et donc, ce qui m'a beaucoup surpris ensuite, c'est que mon père a épousé ma mère qui revenait d'Auschwitz, où sa première femme avait disparu. Donc il y avait quelque chose que je ne connaissais pas, qui était une histoire qui précédait mon histoire, qui précédait l'histoire de ma mère, et qui était d'autant plus surprenant que je croyais tout savoir. Ça a donné à cette envie permanente et à cette sensation permanente d'étonnement et de questionnement une dimension un peu différente, hein, une espèce de sensation ou de certitude qu'on ne connaît jamais vraiment ce qu'on croit connaître. Hein, et que, au fond, tout est à découvrir. Et surtout, il y a deux types d'ignorance, dit-on. Il y a ce qu'on sait qu'on ne sait pas et qu'on cherche. parce qu'on sait qu'on ne le sait pas et qu'on veut le découvrir. Et il y a ce qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas, qui en général est la plus grande source de découverte, y compris en recherche, hein, quand d'un seul coup l'inconnu surgit. Au cœur de la recherche, si je le dis autrement, il y a le manque de ce qu'on saura plus tard, de ce qu'on saura un jour. Il n'y a pas simplement ce qu'on découvre, il y a la richesse de ce qui manque et qu'on ne sait pas qu'on est en train de creuser et peut-être un jour de faire surgir.
Donc dans cette famille où la parole était libre, où on racontait, où on discutait, finalement Jean-Claude Amezen, vous découvrez à l'âge de 18-19 ans ce secret dont vos parents ne vous avaient jamais parlé. On imagine qu'il y a quand même une réaction spontanée ou un choc, mais on est face au dit et au non-dit, et puis au vivant et à la survivance aussi.
Oui, alors cette notion de survivance, c'est une notion, je vais dire, qui m'a été assez évidente depuis ma petite enfance. C'est-à-dire, je savais que mes parents étaient des survivants, je savais qu'une grande partie de ma famille avait disparu, je savais que ceux qui avaient survécu et qui vivaient aux États-Unis, en Israël, en Australie, étaient des survivants qui s'étaient exilés. Donc cette idée que la vie est survivance, mais que ce n'est pas parce qu'elle est survivance qu'elle n'est pas emplie de splendeur, que ce qui se reconstruit peut être aussi beau que ce qui se construit sans qu'il y ait eu de destruction, c'est quelque chose qui m'a été très, très tôt perceptible. Et à la fois la présence de ce désastre, mais une notion d'espoir qui était très locale, puisque si ma mère était là, si j'étais né, c'est qu'au fond, même dans les désastres les plus terribles, il y a quelque chose qui peut ressurgir, qui peut renaître, qui peut émerger. Donc cette double idée. La vie est une survivance, en tout cas certaines dimensions de la vie le sont, mais ça n'ôte rien à son côté merveilleux. Et puis, la présence de l'absence, c'est-à-dire au fond savoir que tout ce qui est autour de nous, c'est aussi ce qui a disparu, c'est aussi une survivance de ce qui a disparu. Et donc, très tôt l'impression que, j'allais dire, ce qui persiste de ce qui a disparu est aussi important, aussi présent que ce qui a survécu, et que nous héritons, d'une manière générale, en dehors des désastres, nous héritons des disparus, et que tout ce qui nous constitue, et que nous avons l'impression d'inventer, et que j'inventais comme enfant, que je découvrais, ce sont des choses dont nous héritons, que notre langue, c'est une langue qu'on nous a appris à parler, qui vient des autres, que ce qu'on connaît du monde, c'est ce qui nous a été légué, et que donc on invente à partir de ce qui a disparu. Ma mère, quelques années avant sa mort, en 96, elle a voulu pour la première fois revenir en Pologne, puisque ni mon père ni ma mère ne sont revenus. Elle a décidé de revenir avec un groupe de survivants qu'elle avait connu plus jeune, et elle m'a demandé de venir avec. Et donc, on est revenu. Elle est revenue. Moi, j'avais l'impression, d'une certaine façon, de revenir, ce qui est assez étrange dans un pays que je n'avais jamais connu. Et donc, on est allé à Auschwitz. Et de manière très étrange, elle était la seule dans le groupe qui avait été enfermée. Et le fait de découvrir le lieu, le plus effrayant pour moi, était le lieu vide, Birkenau, c'est là où il y a plus rien. C'est un désert terrifiant avec quelques vestiges. Elle me disait, c'est rien, parce que il y avait des chiens, il y avait des morts, là c'est rien, il fait beau. Et donc elle avait une espèce de délivrance, je crois, de voir que c'était vraiment fini. Et donc elle m'avait dit, bizarrement, que on avait sans doute, chaque fois que je lui demandais s'il y avait des documents sur elle, elle me dit qu'on n'avait sans doute pas pris son nom, parce qu'elle se souvenait pas qu'on ait pris son nom quand elle était arrivée. Il y avait une guide, et je lui ai demandé s'il y avait des archives. Et elle m'a dit oui, et j'ai dit à ma mère qu'il y avait des archives. Et donc elles sont allées là-bas, et comme dans le procès de Kafka, ou dans une espèce de film fantastique, il y avait une espèce de bâtiment avec plein de casiers, une préposée à un guichet, qui a pris le nom de ma mère, qui a pris son numéro qu'elle lui a donné, et puis elle continue à parler en polonais avec la guide, je ne comprends rien, bon, je suis là, on attend un certain temps, et elle revient avec une fiche. Et sur la fiche, il y a le nom de ma mère, sa date d'arrivée, sa date de départ, son numéro, etc. Et ma mère était totalement surprise de découvrir qu'il y avait une trace. Et je crois que le fait de découvrir le lieu et cette trace, ça a été pour elle une impression que c'était vraiment fini. C'est-à-dire que c'était de l'histoire, c'était des documents. Et je pense que avant ça, ça continuait de la hanter. C'était bien sûr que c'était du passé, mais c'était quelque chose qui était encore présent. Et j'étais très surpris parce que de tout le groupe, ma mère est sortie un peu comme une jeune fille, comme j'imaginais, beaucoup plus jeune, presque joyeuse. Tout le monde était assez atterré, moi aussi. Je crois qu'elle avait mis ce passé derrière. C'était vraiment du passé. Et donc, quand elle me parlait, quand j'étais enfant, je pense qu'il y avait encore cette présence. Elle me racontait quelque chose qui lui était arrivé, auquel elle avait survécu, mais c'était d'une certaine façon encore présent. Et je pense que ça a contribué à la fois à me le rendre familier, à donner l'impression que c'était fini puisqu'elle était là, mais qu'il y avait encore quelque chose qui était présent, qui persistait de ce qu'elle avait vécu autour d'elle et autour de nous.
Vos parents, pour vous, étaient des héros ?
Mon père était un héros à cause de engagé volontaire, fait prisonnier le dernier jour de la guerre. C'était un héros au sens classique du terme. Ma mère n'était pas une héroïne, ma mère était une survivante. Ma mère était... Pour moi, j'avais une notion de l'héroïsme qui était une notion d'héroïsme...
L'arme au poing ?
Comme dans l'Iliade et l'Odyssée, ou comme... et puis peut-être d'ailleurs, petit, hein, une idée de l'héroïsme comme étant quelque chose de masculin, hein, c'est le héros. Donc pour moi, ma mère était quelqu'un d'exceptionnel, d'extraordinaire, qui conjuguait cette force, cette résistance, avec sa créativité, avec son tempérament artistique, avec son côté abstrait, avec sa gentillesse, elle était extraordinaire, mais je la voyais pas comme une héroïne. Il m'a fallu longtemps, j'allais dire, pour repenser à ce que signifie, si tant est que ce mot ait un sens, hein, à ce qu'est une conduite ou une existence héroïque.
Alors, en tant qu'héritier de ce passé, Jean-Claude Amezen, est-ce que vous avez cherché à en discuter avec votre père ? Est-ce que le dit a été dit ou c'est resté du non-dit ?
Si nous l'avons su, c'est de manière totalement triviale, parce qu'un jour... Je crois ma mère demande à mon frère d'aller chercher un document et lui donne un livret de famille. Et donc, il découvre sur le livret de famille la présence de... Et alors, c'est très drôle parce que c'est un secret. Et puis, d'un autre côté, il y a une espèce de négligence ou d'indifférence. C'est comme si ça allait de soi. Et donc, il le découvre et il se tait. Comme si, au fond, il fallait qu'il préserve ce secret. Il arrive la même chose à ma sœur. Et ma sœur, elle, le découvrant, vient chez ma mère et dit « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Et donc là... Elle commence à nous en parler, et donc l'histoire surgit. Et je dois dire qu'apprenant cette histoire que nous ne connaissions pas, il y a eu à la fois une envie de savoir, d'apprendre de la part de mon père, et d'un côté une forme de respect et de retrait, parce que si c'était quelque chose de tellement douloureux qu'il ne nous en avait jamais parlé, c'est pas sous prétexte qu'on l'avait appris que maintenant on allait d'une certaine façon le forcer à nous en parler. Et donc on en a parlé, mais pas beaucoup. On n'a jamais très bien su. Et quand j'ai commencé à essayer, après la disparition de ma mère, au début des années 2000, à interroger leurs amis, ils commençaient à être très âgés. Certains avaient disparu, d'autres commençaient à perdre leurs souvenirs. Et donc j'avais l'impression d'aller sur un chemin où les réponses se dérobaient au moment où je les approchais. J'apprenais que une amie d'une amie avait été une très bonne amie de la première femme de mon père, mais elle venait de mourir. Et l'une des interrogations qui me travaillait, qui me hantait un peu, c'est avait-il eu des enfants ? Et donc dans le convoi du 18 septembre 42 qui l'emmenait à Auschwitz avec 1000 autres personnes, et dont j'ai découvert après, beaucoup plus tard, dans le livre de Klarsfeld, le mémorial de la déportation des Juifs de France, qui avait eu 21 ou 20 survivants, hein, en 45. C'est un de ces convois où les noms des enfants n'ont pas été notés. Et donc, je me suis toujours demandé s'il y avait eu des enfants. J'étais aussi très... Vous savez, c'est comme ces... Comment est-ce que je peux dire, ces explosions silencieuses qui se passent les unes après les autres et qui se succèdent. J'ai eu un sentiment étrange parce que quand j'ai lu Dora Bruder de Patrick Modiano, que je trouve un livre extraordinaire, un des plus beaux livres sur la Shoah à cause de cette impression d'absence, cette impression de silence à travers laquelle il chemine, j'ai cru quand je l'ai lu que c'était une fiction. Et je me suis dit, c'est très beau. Il a imaginé une histoire qui nous permet. J'ai découvert un jour dans un numéro de 1941 d'un journal, etc. Je me suis dit, voilà, c'est une façon de faire vivre ce qui a disparu. Et puis, j'ai découvert que c'était une vraie histoire. Et beaucoup plus tard, après la mort de ma mère, une amie de ma mère meurt. Elle confie à sa fille, à mon intention, un livre qui est le mémorial de la déportation des Juifs de France de Klarsfeld, que j'avais pas lu et que j'aurais dû lire. Et en le lisant, Fabienne, ma femme, découvre ce qu'on cherche, le convoi où Claire, la première femme de mon père, a été déportée, et donc on la découvre dedans. Fabienne découvre que c'est le même convoi où Dora Bruder et son père ont été déportés. Et donc il y avait cette impression étrange de quelque chose, à titre personnel, que je ne connaissais pas, qui était le destin de Claire, qui s'était croisé avec le destin d'une fille dont j'avais pensé qu'elle était imaginaire, et qui se retrouvait là, dans ce livre. Et donc, c'est à la fois, comment est-ce que je peux dire, totalement anodin et anecdotique, ce que je vous raconte. C'est profondément émouvant pour moi, et c'est toujours cette impression qu'on n'en finit jamais de découvrir ce qu'on ne savait pas,
Peut-être pas si anodin, Jean-Claude Amezen, et on a le sentiment que finalement vous restez aussi avec cette question à jamais sans réponse, peut-être. Est-ce qu'il y a des regrets?
Alors, les derniers documents que j'ai eus, que ma sœur a eus, etc., suggèrent très fortement qu'il n'y avait pas d'enfant.
Ces racines familiales et cette Seconde Guerre mondiale en héritage, finalement, Jean-Claude Amezen, est-ce que tout cela, ça a forgé votre caractère? Ça vous a donné des valeurs et si oui, lesquelles?
Que ça ait exercé une profonde empreinte sur moi, c'est sans doute évident. Que ça ait, c'est une question que je me suis toujours posée, influencé les lectures que mes parents m'ont données quand j'étais petit, parce que les premiers livres que j'ai lus, ce qui rétrospectivement est une source de surprise, même si ça m'a paru encore tout à fait normal, je commençais à lire très tôt, ma mère m'a appris à lire très tôt, et donc les deux premiers livres que j'ai lus, je devais avoir 5 ans, c'était la case de l'oncle Tom, donc l'histoire de l'esclavage, des deux livres d'ailleurs du milieu du 19e siècle américain, la case de l'oncle Tom, et le dernier des Mohicans. Et donc, je vous disais que le monde de la Shoah m'était devenu familier, mais là j'ai découvert avec une plus grande brutalité peut-être, parce que quand vous lisez, vous êtes seul, même si vous en parlez après, la tragédie de l'esclavage aux États-Unis et la destruction des Amérindiens aux États-Unis aussi. Et donc j'ai eu non seulement cette histoire, mais je crois très tôt des reflets, même si je ne les ai pas vécus obligatoirement, consciemment, sous cette forme, des reflets de cette histoire. Moi, ce qui m'avait profondément frappé dans le dernier des Mohicans, c'était encore une fois la juxtaposition d'une nature splendide, hein, d'un monde extraordinaire, verdoyant, beau, généreux, et puis d'une disparition, d'une destruction. Et donc cette idée de survivance, qu'est-ce qui survit? Qui survit? Dans quel contexte? Elle a été très, très tôt présente en moi. Plus tard, un livre qui m'avait aussi beaucoup marqué, qui était, j'adorais Hemingway, qui est Pour qui sonne le glas. L'exergue de John Donne, hein, ne va pas chercher pour qui sonne le glas, il sonne pour toi. C'est-à-dire, c'est ce qui arrive aux autres, c'est chacun que ça concerne. Et cette idée qu'il y a quelque chose d'extraordinairement précieux dans la vie, et que cette destruction, cette menace de disparition, d'assassinat, de destruction, elle va avec une envie de protéger, une envie, je dirais, à la fois de chanter la beauté de ce qui existe et de ce qui vit, et en même temps de préserver. Et donc je crois que ce sentiment, sans doute confus, sans doute pas articulé et pensé de la manière dont je vous le dis maintenant, il a très tôt été présent. Hein, à la fois l'émerveillement, je vous le disais, le questionnement, et un sentiment de révolte. Un sentiment de révolte, chaque fois que j'avais l'impression, très jeune, qu'il y avait des personnes qui étaient menacées, qu'il y avait quelque chose de dangereux pour d'autres. Et peut-être avec cette idée, encore une fois, à cause de l'histoire de ma famille, que un danger pour qui que ce soit, c'est aussi un danger pour soi. C'est cette idée qu'on ne sépare pas, au fond, ce qui arrive très loin, ou avant, ou ailleurs, à des êtres humains, de ce qu'on considère comme important, comme essentiel, comme attendrissant dans sa propre vie.
Alors, dans cet héritage de famille, face à ces valeurs qu'on vous donne, il y a aussi les valeurs que l'on suit. Est-ce que dans votre propre famille, bâtie avec votre épouse Fabienne et puis votre fils David, vous avez transmis vous-même ces valeurs et en héritier, en digne héritier finalement?
C'est joli ce que vous dites, parce que dans la famille où j'ai grandi, je me vivais, rétrospectivement, je pense que je me vivais comme l'avenir au présent. C'est-à-dire, tout est présent, bien sûr, tout continuera, les parents sont éternels, les frères et sœurs sont éternels, mais on est dans ce présent continuel, une forme d'avenir. Et puis, dans la famille que l'on fonde, dans ce présent perpétuel de la famille que l'on fonde, on est aussi ce passé en devenir. Et cette transition, elle ne se fait jamais. Puisque en plus l'une commence avant que l'autre, en tout cas en ce qui me concerne, ne s'achève. Mais je crois qu'il y a quelque chose qui fait qu'il n'y a pas de transposition directe. C'est pas la même chose qui recommence. C'est une transformation, c'est une métamorphose. Et donc je pense que nous avons transmis, ou nous avons vécu, je suis pas sûr d'avoir transmis explicitement et intentionnellement une leçon, un message, un héritage. Mais je pense que la façon dont nous avons vécu avec notre fils, dont nous vivons toujours avec notre fils et avec d'autres, elle exprime, elle traduit, elle incarne une partie de ce que, en tout cas si je parle pour moi, de ce que j'ai tiré de cette expérience ou de ce qu'elle a imprimé en moi. Mais encore une fois, je pense pas que c'est explicite. C'est étrangement peut-être, et en tout cas depuis quelques années, plus explicite, et c'est devenu de plus en plus explicite, rétrospectivement, dans la manière dont je considère mes activités de recherche, mon implication dans la réflexion éthique, peut-être même dans la radio, dans l'écriture, beaucoup plus que dans ma vie personnelle et familiale, où j'ai l'impression qu'il n'y a pas de... Ça, c'est présent, mais c'est présent de manière implicite. Alors il y a des moments, bien sûr, où ça surgit, mais comme si ça allait de soi.
Merci Jean-Claude Amezen, on se retrouve demain.
Merci à vous.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre d'Aurélie Luneau avec Jean-Claude Amezen. À voix nue, réalisation Christine Robert, prise de son Yves Lehorse, coordination Claire Poincignon. À voix nue s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.